le bonheur explosif.
Un véritable congé paternité ? Que les papas délivrent des soins à leurs bambins ? Ce sera non. Assis, on a décidé Macron. Et c'est cohérent. Des premiers au dernier jour, de la naissance à la retraite, le président n'a qu'un mot. Coup !
Monsieur le Président, je suis vraiment déçu de ne pas avoir entendu dans votre discours ni dans vos réponses un seul mot sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe. Quelle sera la position de la France sur l'initiative de la Commission européenne, sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, sur les congés parentaux qui vont enfin permettre à ses pères et à ses mères d'assumer leur vie professionnelle, mais également leur vie familiale, et de donner ainsi tout l'épanouissement possible aux enfants européens? Merci.
Depuis des mois, Maria Arena, une eurodéputée socialiste belge, porte le projet d'un congé parental européen. En gros, que les pères soient payés comme s'ils étaient en arrêt maladie, que ça compense plus ou moins leurs revenus. Alors qu'en France, aujourd'hui, le papa qui s'occupe de bébé ne perçoit qu'un tiers du SMIC, environ. La parlementaire a rallié à son idée les ONG, évidemment, les syndicats, sans surprise, mais également la commission. La mesure va créer des emplois, dit-on, beaucoup, faire baisser les dépenses d'assurance chômage et en même temps rapporter des sous. Elle attend donc le soutien, presque le feu vert, du président de la République française. Bien sûr, Emmanuel Macron
approuve totalement le principe.
Et ça, les principes, c'est important, on le sait. Mais quand même, un peu de sérieux.
Les congés parentaux payés au niveau de l'indemnité maladie journalière, c'est une belle idée, qui peut finir par coûter très cher et être insoutenable. Les modalités ainsi décrites telles qu'elles sont analysées sur le système français ont un coût qui est potentiellement explosif.
Fin de la récré. Grâce à Emmanuel Macron, la mesure sera abandonnée ou largement vidée de son sens. Qu'on s'arrête un instant sur cet épisode. Depuis 3 décennies, on nous vend et on nous vante.
L'Europe sociale ?
Elle arrive, et si elle n'arrive pas, c'est la faute aux Anglais, aux Allemands, aux Polonais, aux Roumains, etc. Si à la place, on souffre du dumping social, fiscal, si on ne jure que par la
concurrence libre et non faussée,
c'est la faute aux Anglais, aux Allemands, aux Polonais, aux Roumains, etc. Cette fois, une avancée pouvait qui sait venir de Bruxelles. Même si la Commission avait plus ou moins validé, mais qui s'est interposé ? La France, ou du moins son chef de l'État. C'est lui qui a remis l'Union européenne sur ses rails habituels, libéraux. Et il faut en même temps saluer la cohérence du président.
Le principe.
Certes, oui, mais...
Le coup est potentiellement explosif.
Ce refrain, on l'entend. Il revient depuis le 19e siècle. Depuis les Guizot, les Guy-Lussac, les Talandier. Interdire le travail des enfants. Certes, le principe est généreux. Mais veut-on
sacrifier notre industrie textile ?
Instaurer un congé maternité, que les femmes n'accouchent plus sur les chaînes, que leur enfant ne meurt plus pour moitié avant leur 2e année ? Certes, noble principe, mais le coût ! Et la retraite pour les vieux travailleurs ? Certes, mais le coût ! Emmanuel Macron est l'héritier de cette histoire, de cette bataille centrale autour du temps, c'est-à-dire de la vie. Doit-on le consacrer du matin au soir, du lundi au dimanche, au travail, à l'usine, au bureau ? Ou le sens de l'existence, de la société, réside-t-il ailleurs aussi que dans l'entreprise ? Et c'est cohérent, on le disait. En même temps qu'il refuse le congé paternité, Emmanuel Macron amoindrit les retraites. Lui s'inscrit après Ronald Reagan, après Margaret Thatcher, dans un grand bond en arrière de l'histoire.
Balayons rapidement 1,5 siècle de pénible marche en avant. C'est la question clé depuis le 19e siècle, la libération du travail. La fin du travail des enfants, le recul à 12 ans, puis 14 ans, puis 16 ans, de leur entrée à la mine ou à l'usine, c'est un combat pour du temps libéré. Le dimanche chômé, puis le samedi anglais, comme on l'a appelé, c'est un combat pour du temps libéré. Le congé maternité, les congés payés, c'est un combat pour du temps libéré. La loi des 8 heures, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, c'est un combat pour du temps libéré. et bien sûr les retraites, c'est un combat pour du temps libéré. L'année 1982 en France reste le dernier moment de la conquête, de partielle libération. Par les 39 heures à la place de 40, bof, franchement, par la cinquième semaine de congés payés, ça, oui, ça se prend. Et surtout, par la retraite à 60 ans à la place de 65. Dans un sondage, que pensent les Français à l'époque majoritairement ? Que la retraite passera bientôt à 55 ans. Tant cela semble le sens de l'histoire. John Maynard Keynes estimait d'ailleurs
qu'à la fin du XXe siècle, les besoins économiques seraient grosso modo satisfaits au moins dans les pays développés, que les humains exploreraient d'autres chemins pour le progrès.
Et qu'ils consacreraient
moins de 20 heures par semaine au travail.
Tel semblait l'horizon, ainsi avançait l'histoire.
Le grand bond en arrière. Que s'est-il passé alors ? Pourquoi avons-nous rebroussé chemin ? Pourquoi travaillons-nous plus longtemps ? Le dimanche à nouveau. 35 heures sur le papier, plus en vérité, et bien au-delà en tout cas des 20 heures prévues par Keynes. La retraite qui recule au nom des déficits et de l'espérance de vie. Pourquoi tout cela ? Pourquoi malgré les machines, l'informatique, Internet, bref, malgré les gains de productivité ? Pourquoi, depuis 40 ans, n'avons-nous pas libéré une sixième semaine de congés payés ? J'avancerai quatre causes.
1.
Les dividendes, d'abord, dont la part a plus que triplé depuis 1983.
2.
Les besoins artificiels sans cesse renouvelés. Le capital stimule les désirs de la nouvelle Audi, du portable d'un écrit, de la piscine dans le jardin, etc. Sans quoi, nous ne sommes pas à la hauteur. Sans quoi, nous nous sommes largués. Sans quoi, nous n'attendons pas le bonheur conforme. Il faut bien sûr travailler plus pour s'acheter le iPhone 11. 102 heures à Paris, près de 3 semaines.
3.
Le chômage, d'une diminution de temps de travail choisi, organisé. On est au fond passé à une diminution subie, sous contrainte, et qui ne fait qu'aider malheureux. Le chômeur qui se regarde comme un
déchet inutile au monde,
qui
broie du noir,
condamné à une
agonie sociale.
Je recommande ici le dernier film de Marie-Monique Robin, Nouvelle Cordée, avec des intéressés qui posent des mots lucides sur leur détresse et des salariés qu'on eut jusqu'à la corde, perdant le sens de leur métier. Le burn-out devenant la maladie des temps modernes.
4.
Il y a enfin, et ça englobe le reste, et tant pis pour le mot de quatre syllabes et qui se termine en isme, le libéralisme.
À l'ouest, que du vieux. Car oui, cette inversion de l'histoire, ce grand bond en arrière du temps de travail, nous est venu du large, d'outre-Manche, d'outre-Atlantique, de Reagan et de Thatcher. Les États-Unis étaient, dans les années 1950, le pays de l'Ouest où l'on travaillait le moins et le resta jusqu'en 1980. Moins que la France, moins que l'Italie, moins que l'Allemagne, moins que le Japon. Ils sont aujourd'hui la nation où l'on travaille le plus, pour gagner le plus, pour consommer le plus. En PIB par habitant, indéniablement, ils font la course devant. Les indices de bien-être, en revanche, n'ont pas suivi. Taux d'obésité, taux d'incarcération, taux de mortalité infantile, taux de suicide, taux de maladie mentale, taux d'homicide sont les plus élevés des pays développés. Tout comme le niveau d'inégalité. L'économie se porte bien, les hommes et les femmes se portent mal. Que s'est-il passé ? Dans les années 1980, les USA ont
libéré les énergies
de la rivalité ostentatoire. En 1965, un patron américain gagnait 20 fois le salaire de ses employés. On est désormais à 221 fois. Les revenus des financiers de Wall Street ont explosé. Le 1% du sommet a encaissé tous les gains. Tandis qu'en bas, on multipliait les heures mal payées pour survivre, pour s'offrir aussi une consommation-consolation. J'ai vécu un an au Texas. Et je me souviens, sur le parking des Walmart, des personnes âgées, vraiment âgées, boitillant mal en point, qui rassemblaient les caddies du supermarché payés pour des petits boulots. Voilà qui faisait un étrange écho à l'autre pays où j'avais séjourné plus brièvement, la Biélorussie, et ces vieux qui vendaient des sacs plastiques à la sortie du métro.
le chemin américain. Évidemment, avec leur puissance, leur influence, les États-Unis ont entraîné l'Europe dans cette course folle. Nous ne pouvions pas rester à la traîne. Nous avons d'abord poursuivi notre histoire presque normalement entre 1980 et 1995. Le temps de travail a diminué de 3%. C'était déjà moins rapide que par le passé. Mais le mouvement se poursuivait. Il s'est arrêté net, inversé chez nous aussi. Durant la décennie suivante, entre 1995 et 2005, il a augmenté de 8%. Comme l'écrit Tim Jackson,
la croissance est désormais due au fait que des gens travaillent plus longtemps que dans le passé. L'Union européenne est notamment préoccupée par sa performance par rapport à ses concurrents.
Il fallait rattraper le retard. En France, les 35 heures de Jospin Aubry se sont retrouvées prises dans cette contradiction. La gauche plurielle poursuivait le mouvement ouvrier. Contre le chômage, cette mesure s'est avérée la plus efficace et la moins coûteuse. Mais en même temps, les ministres d'alors maintenaient un discours de compétitivité, validant le traité d'Amsterdam et la stratégie de Lisbonne. La performance économique comme fin. Depuis, il y a eu Sarkozy, Raffarin, Fillon et Emmanuel Macron aujourd'hui prolongent ce chemin américain. Dans la foulée, notre continent, notre pays, sont frappés des mêmes mots. Obésité, incarcération, suicide, maladie mentale. Le bien-être ne progresse plus. Objectivement, c'est mesurable. Le mal-être gagne la société, les esprits. Les inégalités augmentent. Le consumérisme, le productivisme s'est installé dans nos télés, dans nos cerveaux, dans nos vies. Il se confond même avec la vie.
Sortir de la cage. Le combat ouvrier rejoint ici le combat écologique. Les conquis du passé sont des appuis pour demain. Quelle est la priorité pour l'environnement ? Nous devons sortir nos vies, des parcelles de nos vies d'abord, de cette emprise de la marchandise, du productivisme. Le dimanche chômé est un bout de cet enjeu. 24 heures hors de ça, hors de la cage. Autre chose que le métro, boulot, chariot. Le repas en famille, la buvette du club de foot, la balade à vélo, etc. Mais le gros morceau, ça reste la retraite. S'il s'y attaque avec entêtement depuis des années, c'est pour gratter des économies, certes, mais pour une autre raison également, symbolique, idéologique. La retraite, c'est une autre vie qui est déjà là. C'est impossible à étendre, qui nous tend les bras. C'est pour eux une menace. Que voulons-nous ? Quel modèle de société voulons-nous ? Les besoins artificiels doivent-ils l'emporter sur les besoins essentiels ? Se loger dignement, se nourrir dignement, s'éduquer dignement, se soigner dignement, vieillir dignement. La décence commune pour tous ou les rêves de milliardaires pour quelques-uns ? Que doit-on réduire d'urgence pour la planète ? La pension du smicard ? Du métallo ? Du cheminot ? De la secrétaire de mairie ? Ou la part de nos richesses, par exemple, consacrée à la téléphonie, à l'aviation, à l'automobile ?
L'égalité avant la mort. Ces enjeux, jamais le gouvernement ne les pose. Et pour cause, comme s'il s'agissait juste de reboucher un trou, de colmater. Comme si, à l'heure de l'effondrement, du réchauffement, le grand défi, c'était le déficit budgétaire à l'horizon 2030. Comme si la retraite ne dessinait pas la société qui va avec et qui menace ou non la planète. Comme si, en guise de dirigeants, nous n'avions que des experts comptables avec une calculette comme gouvernail, mais qui ne nous parlent ni de nos peurs ni du bonheur. Les liens plutôt que les biens. Je radote depuis un moment, et le premier des liens, évidemment, c'est celui d'une mère, d'un père, avec son bambin, ce soin apporté dans les langes, quand le regard s'ouvre sur le monde. Et il me paraît signifiant, en effet, cohérent, que des premiers aux derniers jours, de la naissance à la retraite, Emmanuel Macron n'est qu'un mot. Coup, coup, coup.
Un article de François Ruffin, lu par
Aurore Juvenel,
Mohamed Sédiki.